Chapitre 9. Incident d'une nature plus odieuse encore que le précédent, avec les commentaires de Thwackum et de Square. Il a été observé par quelques hommes qui ont une beaucoup plus grande réputation de sagesse que moi, que malheur vient rarement seul. On peut le demander à ceux qui ont la douleur de voir une de leurs friponneries découvertes, car une découverte en amène une autre, jusqu'à ce que le tout soit connu. Le pauvre Tom n'eut pas plutôt obtenu son pardon pour la vente de son cheval qu'il fut convaincu d'avoir, quelque temps auparavant, vendu une belle Bible que M. Allworthy lui avait donnée et dont il avait employé l'argent de la même manière. Quoique M. Blifil en eût déjà à lui une semblable, il avait acheté cette Bible en partie par respect pour le livre, en partie par amitié pour Tom. Ne voulant pas qu'elle sortît de la famille pour moitié de sa valeur, il aima mieux l'acheter lui-même à ce prix, car il était très prudent et si soigneux de son argent qu'il avait accumulé jusqu'au dernier sou tout ce qu'il avait reçu de M. Allworthy. On a remarqué qu'il y a des personnes qui ne peuvent lire que dans leurs propres livres. M. Blifil avait un usage contraire. Depuis qu'il était devenu possesseur de cette Bible, il ne se servait plus d'aucune autre. On l'y voyait même lire beaucoup plus souvent qu'il n'avait fait auparavant dans la sienne. Or, comme il demandait fréquemment à Thwackum de lui expliquer quelques passages difficiles, le pédagogue aperçut malheureusement le nom de Tom Jones écrit en beaucoup d'endroits du livre, ce qui donna lieu à une perquisition qui obligea M. Blifil de découvrir le tout. Thwackum avait résolu qu'un crime de cette espèce, qu'il appelait un sacrilège, ne demeurerait pas impuni. Aussi procéda-t-il immédiatement à la correction. Et non content de cela, il instruisit M. Allworthy, à leur première entrevue, de ce crime monstrueux, employant contre Tom les expressions les plus amères, et le comparant aux marchands et aux acheteurs qui furent chassés du temple. Square vit le fait sous un point de vue différent. Il dit qu'il ne voyait pas un plus grand crime à vendre un livre qu'à en vendre un autre, que toutes les lois divines et humaines permettaient de vendre des Bibles, et qu'il n'y avait conséquemment aucun crime à cela. Il dit à Thwackum que la chaleur qu'il mettait en cette occasion lui rappelait l'histoire d'une femme très dévote qui, par pure religion, vola les sermons de Tillotson à une dame de sa connaissance. Cette histoire fit monter une forte rougeur au visage du ministre, qui n'était pas déjà des plus pâles, et il allait répliquer avec chaleur si Mrs. Blifil, qui était présente, n'eût interposé son autorité. Cette dame se déclara absolument pour Square. Elle argumenta même d'une manière très savante à l'appui de son opinion, et conclut en disant que si Tom s'était rendu coupable d'une faute, elle devait avouer que son fils paraissait l'être également, car elle ne voyait aucune différence entre le vendeur et l'acheteur, puisque tous deux avaient été également chassés du temple. L'opinion déclarée de Mrs. Blifil avait mis fin à ce débat. Le triomphe de Square le dispensa d'en dire davantage, et Thwackum, qui, pour les raisons mentionnées ci-dessus, n'osait pas risquer de désobliger Mrs. Blifil, étouffait presque de colère. Quant à M. Allworthy, il dit que, puisque l'enfant avait déjà été puni, il n'avait plus rien à dire en cette occasion. Je laisse au lecteur à deviner s'il était ou non fâché contre Tom. Bientôt après, M. Weston, le même sur la terre duquel la perdrix avait été tuée, porta plainte contre le garde-chasse pour des déprédations de la même nature. Ce fut une circonstance extrêmement malheureuse pour cet homme, car non seulement elle lui suffit pour le ruiner, mais elle empêcha pour le moment M. Allworthy de lui rendre ses bonnes grâces. Il y était d'autant plus disposé que, se promenant un après-midi avec M. Blifil et Tom Jones, ce dernier l'attira adroitement à l'habitation de Black George, où il trouva la famille de ce pauvre malheureux, notamment sa femme et ses enfants, souffrant de toutes les rigueurs dont le froid, la faim, le manque de vêtements peuvent accabler des créatures humaines. Car l'argent qu'ils avaient reçu de Tom Jones avait été presque entièrement employé à payer leurs dettes. Une scène de cette nature ne pouvait manquer d'affecter le cœur de M. Allworthy. Il donna aussitôt à la mère 2 guinées pour acheter des habits à ses enfants. La pauvre femme fondit en pleurs et, tout en le remerciant de sa bonté, ne put s'empêcher d'exprimer sa reconnaissance à Tom, qui l'avait, disait-elle, préservé longtemps elle et les siens, de mourir de faim et de froid. Nous n'avons pas eu, ajouta-t-elle, un morceau de pain à manger, ni ses pauvres enfants un haillon pour les couvrir, qui ne nous a été donné par sa bonté. Car, outre le cheval et la Bible, Tom avait encore disposé d'une robe de chambre et de plusieurs autres effets à lui pour soulager cette malheureuse famille. En revenant au château, Tom employa toute son éloquence à parler de la misère de ces gens et du repentir de Black George. Il y réussit parfaitement, car M. Allworthy déclara qu'il pensait que cet homme avait assez souffert pour ce qui s'était passé, qu'il lui pardonnerait et aurait soin de lui et de sa famille. Tom Jones fut si charmé de ses espérances que, quoiqu'il fît tout à fait nuit lorsqu'ils arrivèrent au château, il ne put s'empêcher de retourner à 1 mille de distance par une pluie battante pour instruire la pauvre femme de ses bonnes nouvelles. Mais, comme ceux qui s'empressent de divulguer les bonnes nouvelles, il n'y gagna que la peine de les contredire lui-même, car le mauvais génie de Black George profita justement de l'absence de son ami pour tout détruire. Chapitre 10. Dans lequel M. Blifil et Tom Jones paraissent sous différents points de vue. M. Blifil avait très peu de cette aimable pitié qui distinguait Tom Jones, mais il avait infiniment plus que lui une qualité bien supérieure, je veux dire l'amour de la justice. Il suivait en cela les préceptes et l'exemple de Thwackum et de Square, car, quoique tous deux employassent fréquemment le mot de pitié, il n'en était pas moins clair que Square la considérait comme ne pouvant s'accorder avec la règle de la justice, lorsque Thwackum pensait que c'était aux hommes à être justes et qu'il fallait laisser la pitié au ciel. Ces deux personnages différaient pourtant un peu dans l'opinion qu'ils avaient de cette sublime vertu, avec laquelle Thwackum aurait probablement détruit une moitié du genre humain et Square l'autre moitié. Quoique M. Blifil eût gardé le silence en présence de Tom Jones, quand il eut mieux considéré le fait, il ne put prendre sur lui de souffrir que son oncle fît du bien à des gens qui ne le méritaient pas. Il résolut donc aussitôt de révéler le fait dont nous n'avons encore dit qu'un mot à nos lecteurs, et que voici. Le garde-chasse, environ 1 an après qu'il eût été renvoyé par M. Allworthy, et avant que Tom eût vendu son cheval, manquant de pain pour lui et pour sa famille, aperçut, en traversant une pièce de terre appartenant à M. Weston, un lièvre au gîte, qu'il frappa sur la tête avec autant de lâcheté que de barbarie, non moins contre les lois de la chasse que contre les lois du royaume. Le revendeur, qui avait acheté le lièvre, ayant été malheureusement pris quelque temps après avec une grande quantité de gibier, fut obligé d'apaiser M. Weston en dénonçant quelques braconniers. Black George lui fut aussitôt indiqué, comme étant déjà suspect et ayant une mauvaise réputation dans le pays. C'était justement celui que le revendeur pouvait sacrifier avec le moins de désavantages pour lui, car il ne lui avait pas fourni de gibier depuis ce temps. Il y trouva même un avantage, celui de mettre à couvert, par ce moyen, ceux qui lui en fournissaient le plus souvent. Car M. Weston, charmé de trouver cette occasion de punir Black George, qu'une simple faute de cette nature pouvait perdre à jamais, ne prit pas de plus amples informations. Si ce fait avait été présenté dans toute sa vérité à M. Allworthy, il en serait probablement résulté peu de mal pour le garde-chasse. Mais il n'y a point de zèle plus aveugle que celui qui est inspiré contre les coupables par l'amour de la justice. M. Blifil avait oublié l'époque. Il variait également sur les circonstances du fait, et par l'addition un peu hasardée de la seule lettre S, il altérait considérablement l'histoire, car il disait que George avait tué des lièvres. Toutes ces altérations auraient vraisemblablement servi à faire connaître la vérité si M. Blifil n'avait pas malheureusement fait promettre le secret à M. Allworthy, avant de le lui révéler. Mais, par ce moyen, le pauvre garde-chasse fut condamné, sans avoir trouvé l'occasion de se défendre. Car rien n'étant plus certain qu'il avait tué le lièvre, et que la plainte en avait été portée, M. Allworthy ne douta pas que le reste ne le fût également. La joie de ces pauvres gens fut conséquemment de peu de durée. M. Allworthy déclara le lendemain matin qu'il avait de nouvelles raisons qu'il ne lui était pas permis de dire pour être irrité contre eux, et défendit sévèrement à Tom de lui parler désormais de George. Il ajouta que, quant à sa famille, il tâcherait de l'empêcher de mourir de faim mais qu'il abandonnait le malheureux George à la rigueur des lois. Tom ne put deviner ce qui avait excité le courroux de M. Allworthy, car il n'avait pas le moindre soupçon sur M. Blifil. Cependant, comme son amitié ne connaissait pas d'obstacle, il se détermina à essayer un autre moyen d'empêcher la ruine du garde-chasse. Tom Jones était lié depuis peu très intimement avec M. Weston. Il s'était mis si avant dans ses bonnes grâces, en franchissant les barrières les plus dangereuses, et par mille autres exploits aussi brillants, que M. Weston avait déclaré hautement que Tom serait certainement un jour un grand homme, pour peu qu'il trouvât quelque encouragement. Il énonçait souvent le désir d'avoir un fils de ce mérite, et paria un jour tout haut 1000 guinées que Tom pouvait défier le meilleur chasseur du comté et valait à lui seul toute une meute. Ce genre de talent l'avait tellement mis en faveur auprès de M. Weston qu'il était le convive le mieux reçu à sa table et son compagnon favori à la chasse. Tout ce que ce gentilhomme aimait le mieux, c'est-à-dire ses fusils, ses chiens et ses chevaux, était autant au service de Tom que s'ils lui eussent appartenu. Il résolut donc d'employer son crédit en faveur de son ami Black George, qu'il espérait introduire chez M. Weston sur le même pied qu'il était chez M. Allworthy. Si le lecteur considère que Black George était déjà coupable envers M. Weston, s'il considère encore la gravité du crime pour lequel il avait encouru l'indignation de ce gentilhomme, il taxera peut-être de folie l'entreprise de Tom comme ne permettant aucun espoir. Mais s'il condamne le pauvre Tom en cette circonstance, il ne pourra s'empêcher du moins d'applaudir à son humanité et de lui montrer tout l'intérêt possible pour lui donner des forces dans une occasion aussi difficile. Tom s'adressa donc pour ce dessein à la fille de M. Weston, jeune personne de 17 ans environ, que son père aimait et estimait par-dessus tout, après son équipage de chasse. Elle avait beaucoup de crédit sur son père. Tom en avait un peu sur elle. Mais comme nous la destinons à être l'héroïne de cette histoire, comme c'est une dame que nous aimons beaucoup, et qu'il est probable que la plupart de nos lecteurs l'aimeront aussi beaucoup, il serait tout à fait inconvenant qu'elle parût pour la première fois sur la scène à la fin d'un livre.